Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Laurent Decaune, bonjour.
Bonjour.
Voilà, quatrième rencontre, je crois bien, oui. Des rencontres courtes, malheureusement 12 minutes, ça passe très très vite. Mais je dis à nos auditeurs que chaque rencontre est rediffusée dans la semaine. Il faut aller voir, évidemment, les horaires, je ne sais plus. Alors, nous avons parlé de droit. Je rappelle que vous êtes évidemment avocat connu, qui avait participé à des affaires qui ont passionné, évidemment, le grand public et les journalistes. Vous êtes votre première plaidoirie. Est-ce que vous vous en souvenez ?
Ma première plaidoirie, ça remonte à bien longtemps, mais la première dont je me souvienne, parce qu'elle a été un peu notable, j'étais devant le tribunal correctionnel de Toulouse, dans les vieux locaux, et je défendais je ne sais plus trop qui, je ne sais plus trop à quel sujet, mais l'audience a été interrompue parce que quelqu'un a poussé un grand cri dans le public, il faisait un malaise, et ce pauvre homme est mort. Sur
ça
place.
A été votre premier mort.
Et voilà, ça a été le premier effet de ma première plaidoirie.
Bon, ça ne vous a pas découragé, je vois.
Non, j'ai persisté, mais c'était un peu impressionnant.
Ah oui, en effet. Bon, on rit, mais effectivement. Est-ce que vous avez eu le trac et est-ce qu'il vous arrive encore d'avoir le trac?
Toujours. J'ai toujours eu le trac et il ne s'est jamais atténué.
C'est peut-être pas mal plutôt que d'arriver les mains dans les poches, non ?
Il ne m'appartient pas d'en juger, mais je pense que sans trac,
on est moins
on
performant.
Est moins bon. Et il faut l'avoir. C'est comme chez les acteurs, là, pour la circonstance, on peut comparer les métiers. Sauf que nous, c'est la vie d'un autre qui dépend de notre efficacité.
Oui.
Quand on est un mauvais acteur, quand le trac domine et qu'on n'est pas bon dans la pièce, c'est sa responsabilité par rapport à soi-même.
Exactement. Tandis
quand on n'est pas bon à l'audience, parce qu'on est dominé par le trac, c'est l'autre qui en pâtit. Alors, ce trac, il est important parce qu'il faut le dominer et le dépasser. Mais on l'a. Voilà, en tout cas, moi je l'ai et je crois que beaucoup d'avocats pénalistes l'ont.
Et quand votre client est malgré tous vos efforts, est condamné, est-ce que vous avez un sentiment d'échec ou plutôt le sentiment d'avoir fait le maximum ?
Les deux, mon capitaine. On a un sentiment très, très mitigé. On a l'amertume de la défaite, mais surtout de la défaite et de la souffrance de l'autre, puisque, encore une fois, c'est la douleur et la souffrance qu'on traite. Donc, si quelqu'un qui se dit innocent et dont on pense au fond de soi qu'il est innocent, ce qui, en fait, n'a pas de grande importance, mais quand il est condamné, c'est une souffrance terrible. Donc, on partage cette souffrance. Si on a fait ce qu'on devait faire, si on estime qu'on n'a pas failli, qu'on n'a pas été, qu'on n'a pas été en dessous de ce qu'on espérait de soi-même, c'est une forme de consolation.
Mais quand vous savez, parce que vous savez qu'il est coupable, pas dans tous les cas, parce qu'il ne vous dit pas toujours la vérité, mais quand vous savez qu'il est coupable, bon, vous avez fait... Oui.
On ne sait pas. On ne sait pas s'il est coupable. Il peut y avoir énormément d'éléments à charge qui peuvent inciter un tribunal ou un jury à déclarer coupable, mais nous, on ne le sait pas.
Et, même si vous l'avouez à vous.
Non, mais ça n'arrive jamais.
Ah non ?
Sur les sujets importants, ça n'arrive jamais. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a divers degrés de culpabilité. On peut être impliqué dans un fait terrible qui a pris une coloration criminelle sans être l'auteur pour autant du crime, mais en étant l'instigateur, quelquefois volontaire, quelquefois involontaire, à moitié volontaire. Il y a une palette infinie de culpabilité. Mais s'il s'agit d'un fait objectif, précis, matériel, j'étais là ou j'étais pas là, non, nous ne jugeons pas. Moi, je ne sais pas.
Oui.
Donc, je ne prends pas parti sur ce terrain-là.
Et est-ce que vous prenez, vous, en compte, est-ce que vous voyez également le passé de cet individu, l'enfance qu'il a eue, est-ce que ce qu'il a amené à agir, par exemple.
Oui, ça c'est fondamental. L'élément de personnalité est fondamental.
Oui, c'est ça.
Alors, il est fondamental surtout dans une discussion qui n'est pas celle de la culpabilité, puisque c'est dans son, dans sa biographie qu'on va chercher ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Ça n'existe plus en tant que tel dans le code pénal, mais le concept reste.
Ça n'existe plus.
Non. Ça ne fonctionne plus comme cela. Autrefois, c'était un système qui était inscrit dans le code. Maintenant, c'est une espèce de notion d'évidence. On cherche des circonstances qui expliquent. Et nous cherchons, nous, des circonstances qui atténuent. Voilà, bien donc sûr. On va les chercher dans la biographie qui est fondamentale. Il y a des parcours de vie qui conduisent à des situations invraisemblables et qui permettent donc de jouer sur une corde sensible pour que celui qui est reconnu coupable ne soit pas pour autant accablé. Je dois dire que c'est un peu disqualifié maintenant parce qu'il y a tellement eu de clichés, de caricatures dans l'histoire judiciaire, dans le roman judiciaire ou dans le film judiciaire. Vous n'allez pas condamner un malheureux, enfance malheureuse, orphelin, etc. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal à toucher psychologiquement les juges.
D'autant que, alors, les juges et peut-être les familles, peut-être les familles des victimes aussi, non ?
Ah, les familles des victimes, elles sont touchées psychologiquement par essence même, oui, bien sûr. Mais elles sont assez peu sensibles à la psychologie des assassins.
Oui, voilà. J'imagine. Voilà. Oui.
Mais on fait de la psychologie, et comme j'ai eu l'occasion de le dire peut-être, il y a de la douleur partout, des deux côtés. Donc on travaille sur un matériau humain d'une grande souffrance, les gens sont à vif.
Donc, vous préparez votre plaidoirie. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Vous devez y revenir probablement au fil de vos rencontres avec votre client. Cette plaidoirie, vous l'écrivez ? Vous ?
Alors, non, moi je prends des notes.
Et vous l'écrivez pas ?
Non, je prends des notes, je prépare des notes, je prépare un plan surtout, avec des idées. Que
d'accord.
Je griffonne.
Et après, est-ce que vous mettez ce que vous allez dire en bouche ? Est-ce que vous entraînez, vous enregistrez ? Non ?
Non.
Pas du tout ?
Non, non. Il y a un paramètre qu'il faut prendre en considération, c'est que l'audience, c'est une phase active et souvent imprévisible. Il se passe à l'audience des choses qui ne sont pas inscrite préalablement dans un dossier.
Donc, vous pouvez changer.
Il y a un dossier pour préparer l'audience. C'est le dossier sur lequel les magistrats et les avocats travaillent et auquel on se réfère pour rappeler ce qui a été dit et évoquer les éléments concrets, les éléments matériels. Mais l'audience est orale. Donc, il peut se dire à l'audience des choses différentes de ce qui avait été écrit ou de ce qui avait été compris à travers les écrits. Il y a des moments d'intense émotion. Il y a les témoins qui peuvent dire des choses un peu différentes et puis ils les disent différemment de ce qui est écrit. Et donc, il faut intégrer tout ceci puisque l'objet de la plaidoirie, c'est un peu de récapituler ce que les jurés, notamment, ont pu vivre à l'audience. Donc, on ne peut pas préparer une plaidoirie très à l'avance. On peut avoir des idées, bien sûr, sur la stratégie, sur les points à mettre en évidence et en avant. Mais il faut se réajuster à chaque instant. Et quand on vous donne la parole, c'est que, soit si vous êtes partie civile, les débats viennent de se terminer et donc il faut peut-être intégrer un élément tout récent.
Oui, c'est ça.
Soit
oui, à la limite, vous improvisez presque.
Il y a pas mal d'improvisation. En tout cas, il faut laisser la porte à l'improvisation et en tout cas à l'intégration de ce qui vient de se vivre.
Oui.
Ce qui fait que la préparation est très, très difficile dans son principe même.
Est-ce que les avocats se communiquent entre eux des informations ?
Alors, il y a un principe fondamental qui est celui du contradictoire. C'est-à-dire qu'on ne peut discuter que sur ce qui a été mis en discussion contradictoirement, c'est-à-dire exposé, fourni préalablement et débattu de part et d'autre, devant les magistrats. Voilà. Donc on ne peut pas sortir une pièce et créer un effet de surprise en dehors du respect de ce contradictoire. Maintenant, on peut utiliser un argument qui vient à l'esprit, qui n'a pas été évoqué antérieurement, et qui peut d'ailleurs trouver son origine dans ce qui vient d'être dit préalablement. Donc ça, ça fait partie de la liberté d'expression du défenseur, notamment, puisque c'est celui qui s'exprime en dernier.
J'aimerais que nous terminions nos entretiens en parlant de vos, je dirais, vos maîtres, ce que vous avez apprécié, ce que vous appréciez encore. Mais auparavant, j'aimerais savoir quelles sont les relations entre les avocats et les juges et les magistrats. C'est pas toujours, c'est parfois un peu tendu, d'après ce que j'ai cru comprendre.
C'est assez variable. Il y a des avocats qui se font une profession d'agressivité à l'égard des magistrats. C'est ce qu'on appelait à une époque la défense de rupture. Ça avait été initié plus ou moins par Vergès, mais en fait, ça a toujours existé. Il était provocateur, mais ça a toujours existé. Ça se fait encore. Moi, je ne suis pas partisan de cela, en tout cas de façon systématique. Il peut y avoir des moments où la rupture est nécessaire pour restaurer un équilibre. Mais d'une façon générale, les relations avec les magistrats doivent être correctes, voire bonnes. Nous participons ensemble à l'action de la justice. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Mmh. Et si on ne respecte pas le magistrat qu'on essaie de convaincre, eh bien, il vaut mieux renoncer à tenter de le convaincre.
Oui. Mais parfois, il y a quand même des tensions. Il me semble que Dupond-Moretti a eu...
Il y a des tensions. Dupond-Moretti s'est créé effectivement une réputation avec ce style-là, mais il faut être nuancé. Moi, je l'ai côtoyé dans pas mal de circonstances.
Oui.
Et c'est un homme d'une grande subtilité psychologique. Il sait ce qu'il fait, il sait quand il faut forcer la voix, et il sait quand il faut l'adoucir pour aller jusqu'au cœur des personnes à qui il s'adresse et qu'il veut convaincre. Donc il n'y a pas de système. Mais je préfère essayer de dialoguer implicitement avec ceux à qui je m'adresse plutôt que de les agresser.
Laurent Decaune, merci. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine et on continuera à parler de droit et de procès et de plaidoirie.